Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Mes chers auditeurs, nous vous présentons aujourd'hui notre premier journal d'actualité sonore radiophonique. Ce premier numéro n'a pas la prétention d'être parfait, bien loin de là. On ne lance pas d'ailleurs un hebdomadaire de ce genre nouveau sans rencontrer au début des difficultés. Pour vous citer un exemple, vous n'entendrez aujourd'hui que des actualités parisiennes, alors que notre intention est de vous donner plus tard des actualités mondiales. Mais nos correspondants de l'étranger, déjà alertés, ne pourront vous envoyer leurs images sonores que dans les semaines qui vont venir.
Bonjour à toutes et à tous. Au début, il y a eu des grésillements, des grandes ondes, des boutons qu'on tournait pour trouver la bonne station et enfin du son, des paroles, de la musique. La télégraphie sans fil, la TSF était née et les postes s'invitaient dans chaque foyer. En cette semaine qui célèbre donc les 100 ans de la naissance de la radio, nous vous proposons dans l'émission littéraire de RFI de rendre hommage à ce merveilleux outil de transmission et de partage avec un écrivain qui a intitulé son nouveau roman, et ce n'est pas un oxymore, « Silence Radio », paru aux éditions de la Table Ronde. Bonjour Thierry Dancourt.
Bonjour.
Si votre livre n'a pas pour cadre fondamentalement le monde radiophonique, même si en fond et en partie il se déroule dans les coulisses de la RTS, Média Suisse, il n'en possède pas moins de nombreuses qualités sonores. Et à l'image de vos romans précédents, de l'Hôtel de Lausanne en 2008 jusqu'à Jeux de Dames en 2017, on y retrouve des personnages énigmatiques, des situations clandestines, des atmosphères d'espionnage, des décors de brume, des lieux du quotidien nimbés d'étrangeté. Donc, si vous voulez bien, nous allons entrer dans votre livre par les ambiances, ce qu'on y entend, et ensuite, vous nous direz ce que cela vous inspire et le lien avec Silence Radio. Vous êtes prêts ?
Prêt.
Donc, on commence avec ce premier sonore. Qu'est-ce que ça vous évoque, Thierry Dancourt ? C'est la première scène du livre.
C'est la première scène du livre, effectivement, qui est un lieu de rendez-vous entre Franck, le personnage principal, et Cécile, qui est, on va dire, pour simplifier un petit peu, sa maîtresse. Et c'est vrai que c'est la première scène du livre qui se passe en 1960 ou 61, je ne sais plus exactement, au début des années 60, et qui ouvre un livre qui va très vite se déporter vers la guerre, l'occupation à Paris. Et puis ensuite, petit à petit, on va revenir en Suisse au début des années 60. Voilà, donc c'est un livre qui tourne un petit peu, peut-être pas en rond, j'espère pas, mais qui tourne un peu autour de lieux.
Comme une spirale, en effet.
Un petit peu une spirale, oui, qui absorberait un peu les personnages et les situations dans une espèce de tourbillon de temps, d'espace et d'idées aussi, puisque c'est un roman quand même qui joue sur la guerre froide, hein, qui se passe durant la guerre froide. Donc, où les idées sont quand même un petit peu sous-jacentes et un petit peu dans l'ombre des actions des uns et des autres.
De façon plus générale, les cafés, un lieu d'inspiration, un lieu où vous écrivez, Thierry Dancourt ?
Non, pas du tout, pour des questions très pragmatiques de tranquillité, on va dire. Je préfère très nettement rester chez moi. Et les cafés, bon, ce ne sont pas des lieux où je vais si régulièrement que ça. J'y suis allé beaucoup à une époque, étant plus jeune, mais bon, beaucoup moins actuellement. Mais ce sont des lieux de brassage, de rencontres qui sont toujours très intéressants, oui.
Scène suivante. Donc Cécile monte dans un train, rejoindre un homme. Un commentaire, Thierry Dancourt ?
Alors en fait, effectivement, elle annonce à l'ami qu'elle voit au café dont nous parlions tout à l'heure, qui est le San Remo à Genève, qu'elle s'apprête à prendre le train à la gare de Genève, en lui annonçant qu'elle prend le train pour Paris. Et en fait, au chapitre suivant, on s'aperçoit que, en fait, de train pour Paris, c'est un train qui arrive à la montagne. Donc voilà, on sait d'entrée qu'il y a un petit problème.
Premier mensonge
du premier personnage. Donc on est un petit peu dans une ambiance déjà trouble. Et donc effectivement, ce train la conduit dans une espèce de station thermale suisse un petit peu perdue dans les montagnes, qui est Vals, qui est une station qui existe, et qui là va rejoindre Franck, qui se trouve Franck, donc le personnage masculin principal, qui s'y trouve déjà avec un autre ami qui s'appelle Richard. Voilà.
Et ils sont dans un endroit sidérant, en effet, au milieu des Alpes. Voilà ce qu'on pourrait entendre. Le vent, la montagne.
C'est Shining, hein, là.
Pour commencer, je voudrais qu'on s'arrête sur cet espace de montagne, la Suisse, en l'occurrence, comme dans votre premier roman, Hôtel de Lausanne, où on retrouve aussi ici le cadre d'un hôtel. Un hôtel de luxe, mais qui est vide. Plus personne ne vient ici. Et donc, personnage fantomatique, le couple, Franck et Cécile, qui rejoignent un ami, et puis un gardien, une silhouette. Quel est votre lien avec la Suisse exactement, Thierry Dancourt ?
Pas si particulier que ça, finalement. C'est un endroit où je vais régulièrement, pour des raisons privées, on va dire. Mais ce n'est pas un pays que je fréquente de manière très régulière, très souvent. Et depuis longtemps, si, mais pas de manière systématique du tout. Donc c'est un endroit un pays en tout cas, qui est bien pour les romans, parce que c'est un endroit un petit peu, une plaque tournante en fait, une plaque tournante pour beaucoup de choses, notamment au regard de l'histoire. C'est un pays intéressant pour ça, parce que c'est un pays un petit peu entre deux, un petit peu flou, dont le statut est toujours un peu énigmatique pour nous, Français.
Et un espace-temps suspendu.
Un espace-temps un petit peu suspendu, oui. C'est vrai que bon, la Suisse, pour nous autres Français, est synonyme un peu de mystère aussi, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe en Suisse.
Il y a des coffres forts.
Il y a des coffres forts dans lesquels on ne sait pas trop ce qu'on peut y trouver. Des choses comme ça, un petit peu floues finalement. Donc c'est intéressant du point de vue romanesque, pour un romancier, il me semble.
Que vous permet cet endroit, à la fois majestueux et vide, abandonné et plein de promesses ?
Bah, en fait, on ne sait pas trop. C'est-à-dire que moi, je fonctionne un petit peu par flash. Et c'est un endroit que je connais, évidemment, que j'ai connu un petit peu vide aussi, à une époque. Mais bon, ce sont des images qui viennent comme ça, et en fait on ne sait pas trop quoi en faire, et on les juxtapose un peu sur une feuille de papier, et on essaie de les relier. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc c'est une espèce d'image de flash, et qui vient comme ça. Donc il faut le caser un petit peu quelque part. Donc il y a un moment où on se dit, bah voilà, les personnages vont aller dans cet endroit-là, mais c'est pas du tout quelque chose de construit au niveau intellectuel. C'est plus une sorte d'inspiration qui fait que le lieu s'impose d'entrée, quoi.
Et a autant d'importance que les personnages, néanmoins.
Bah, pour moi, c'est vraiment un personnage, le lieu. C'est-à-dire que tout naît un peu à partir du lieu. Et les histoires, si histoires il y a, émergent un petit peu des lieux dans lesquels ensuite viennent se poser les personnages, mais pas immédiatement en fait. C'est plutôt les lieux qui sont à l'origine du mouvement et de la dynamique du livre en fait.
Et donc dans cet entre-deux-mondes, cet entre-deux-époques, se racontent à rebours leur histoire commune, comment Cécile et Franck se sont rencontrés, en l'occurrence dans une station de radio. la station RTS suisse, où il travaillait sur un programme qui n'est pas sans nous rappeler ça. Voilà, nos auditrices et auditeurs auront peut-être reconnu cet extraordinaire générique du programme Les Maîtres du Mystère, un feuilleton radiophonique qui, tous les soirs dans les années 50 et 60 en France, était suivi par des milliers de personnes, puisqu'il s'agissait d'adaptations de romans policiers portés par des voix de comédiens exceptionnels. Et vous, Thierry Dancourt, dans votre roman, vous inventez un programme qui s'intitulerait Les Ondes de l'Angoisse. Est-ce que c'est un hommage ?
Non, pas vraiment. Je me suis un petit peu effectivement intéressé aux émissions dramatiques qui passaient à la radio à cette époque. Et effectivement, j'ai consulté un petit peu des livres à ce sujet. Donc effectivement, il y a beaucoup de titres, beaucoup d'émissions, beaucoup de dramatiques, puisqu'on les appelait comme ça à l'époque. Mais ce n'est pas une référence directe, en fait. C'est Les Ondes de l'Angoisse. C'était plus... un titre un petit peu humoristique, c'est-à-dire Les Ondes de l'Angoisse, bon, c'est un peu beaucoup pour une émission de radio. Donc, mais c'est effectivement une référence à des choses qui se faisaient à radio, qui se font un petit peu moins aujourd'hui, mais qui pour moi sont vraiment intéressantes parce que c'est vraiment la pré-télévision, c'est-à-dire que c'est du texte que l'auditeur met lui-même en image, donc que l'auditeur travaille lui-même par son imagination. C'est vraiment du texte, en fait. C'est pour ça que ça m'a intéressé.
Et vous aimeriez, Thierry Dancourt, écrire des fictions radiophoniques ?
Pas spécialement, parce que bon, c'est sans doute des codes qui m'échappent un petit peu, mais j'y ai jamais pensé, à dire vrai.
Et est-ce que par ailleurs vous êtes un auditeur, vous ?
Oui, exactement. J'écoute les fictions de France Culture assez régulièrement, d'une oreille ou deux en fonction de ce que j'ai à faire, mais ce sont des émissions qui sont vraiment intéressantes.
Revenons à votre roman Thierry Dancourt. Il se trouve que suite à l'annonce dans le journal de la découverte d'un corps en pleine montagne, celui d'un homme disparu depuis des années, votre récit bascule cette fois dans les années 40, à Paris, sur fond de guerre. L'occupation, la résistance, les agents infiltrés, les traîtres, c'est un univers littéraire qui vous inspire ?
En fait, Franck appartient, on l'apprend petit à petit, au GRU, qui est le service de renseignement soviétique de l'armée rouge. Il agit dans ce cadre-là avec sa femme, Perrine. Et Perrine, assez rapidement, est repérée par un inspecteur des brigades spéciales françaises, donc qui dépendait à l'époque de la préfecture de police. Repérée, arrêtée, déportée et exécutée finalement. Alors que Franck, lui, peut échapper au coup de filet qui a eu lieu à ce moment-là à Paris. Et je ne veux pas trop dévoiler le roman, mais ce qu'est ça qui est revu quelques années après, en 1951, en Suisse. Évidemment, Franck va monter une opération qui vise à le
maîtriser,
à le refaire passer en fait du côté français, de manière à ce qu'il puisse être jugé, parce qu'on est en pleine période de l'épuration en 51. Donc il y a encore des procès d'épuration et ce Kessac, évidemment, comme bien d'autres à l'époque, a échappé à la justice. Donc l'idée de Franck et d'un ami à lui, Dardel, c'est de le faire passer de Suisse en France, où il pourra être interpellé par un agent de la DST, puis jugé, etc. Évidemment, il y a un grain de sable qui s'immisce dans, dans l'engrenage et qui fait que ça ne va pas exactement se dérouler comme ça.
À vous écouter, on a l'impression qu'il s'agit d'un roman d'espionnage. Ce n'est pas le cas, mais néanmoins, il y a tous les réflexes du roman d'espionnage. Qu'est-ce que ce genre vous permet d'instiller dans votre écriture, Thierry Dancourt ?
Dans les romans d'espionnage, c'est vrai que c'est pas un genre que j'affectionne en particulier, mais c'est un univers qui m'intéresse dans la mesure où, lorsqu'un personnage ouvre la bouche, on ne sait pas s'il va dire vrai ou faux. On ne sait pas où on est finalement. Et dans ce roman-là, c'est particulièrement vrai parce que, à un moment, beaucoup de choses s'avèrent fausses et on est sans cesse confronté à des faux-semblants, des mensonges qui en sont peut-être ou pas, des vérités qui en sont peut-être ou pas. Donc c'est sur le plan romanesque, c'est intéressant parce que c'est vraiment un jeu en fait. Voilà.
C'est l'éloge de la fiction, c'est une mise en abîme permanente de la fiction.
Oui, c'est-à-dire que c'est une fiction qui vient sur une autre fiction, en fait. Donc, il arrive un moment où on ne sait plus très bien si ce qu'on lit est vrai, est faux. Et je le savais plus très bien non plus moi-même, d'ailleurs, en l'écrivant.
Et de façon générale, Thierry Dancourt, c'est ce qui vous intéresse, justement, cette zone incertaine, qui est aussi, d'ailleurs, cette époque. Entre les années 40 et les années 60, il y a une zone grise, et qui nous renvoie d'ailleurs aussi à Jeu de Dames, puisque c'était à peu près la même époque,
oui, exactement, oui.
À Berlin. Mmh. Et il y avait aussi d'ailleurs une circulation autour d'une bande magnétique
exactement.
Énigmatique. Ouais, ouais. Donc la question du son aussi, à nouveau ici.
Oui, c'est vrai. La question de la radio, en fait, c'est plus la question de la radio, parce que... J'écoute la radio depuis vraiment très longtemps, depuis mon adolescence, de manière très très soutenue. Et ça a été vraiment à une époque une fenêtre ouverte sur le monde pour moi. Je sais pas, je suis un petit peu attiré par ce monde-là. J'ai du mal à dire pourquoi, parce que à une époque on entendait des voix dans la nuit comme ça à la radio, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui, mais c'était un petit peu... par rapport à la télévision qui est toujours très très blanche, très noire, enfin qui est sans mystère finalement, la radio est toujours donne toujours une possibilité à l'auditeur de se faire sa propre idée sur ce qu'il entend et d'imaginer ce qu'il veut en fait. Donc, vous avez raison, c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement entre la bande magnétique. Du précédent roman et l'univers de celui-ci, mais c'est tout à fait pertinent. Oui. Voilà.
Dans votre roman, un personnage parle d'un morceau de musique, et voici un extrait de ce morceau. Est-ce que vous avez reconnu, Thierry Dancourt, ce morceau de musique que vous citez dans votre roman Silence Radio ? Est-ce que je vous vois un peu perplexe ?
Non, j'ai reconnu. Nous sommes à Vals, dans cette station thermale un peu désaffectée, un peu même beaucoup désaffectée. Et Richard est également un agent de renseignement, collègue de Franck. Et en fait, il s'amuse, on va dire ça entre guillemets, la nuit, à écouter des fréquences, ce qu'on appelle en fait des stations de nombre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Qui à l'époque étaient des stations où étaient diffusés des messages cryptés en fait, qui étaient émis en fait par le KGB par exemple et d'autres services à destination des agents en action dans les pays occidentaux. Et ces messages étaient destinés, avaient un contenu précis, donc qui était un contenu d'action précise. Et c'était des stations qui sont audibles sur certaines fréquences, à certaines heures. Tout ça est assez précis et codé. Et donc Richard, qui s'ennuie un petit peu dans son hôtel désaffecté, le soir s'amuse, entre guillemets toujours, à écouter ces stations de nombre, qui visiblement lui rappelle une époque où il était agent actif. Voilà, donc, et le morceau que vous avez passé est l'ouverture d'une émission de l'une de ces stations.
Et le compositeur est Dmitri Kabalevski, c'est un morceau pour piano, concerto numéro 4, Prague.
Voilà.
Vous écrivez en musique, Thierry Dancourt ?
Alors, tout dépend des phases, en fait. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où la concentration exige que l'on coupe un peu tout, toute nuisance extérieure, je dirais. Mais au début, oui, au début, j'écoute pas mal de musique, même sur casque, en fait. Et puis, au fur et à mesure de la rédaction, quand les choses deviennent un petit peu sérieuses, on baisse le son jusqu'à finir par le couper. Et puis, à un moment, je tape à la machine mécanique, en fait. Donc, il y a un moment où il y a une sorte d'antagonisme entre le fait d'écouter de la musique et taper à la machine, parce que les sons ne sont pas exactement les mêmes.
Vous tapez à la machine, c'est devenu très rare, ça?
Ouais, c'est devenu assez rare, je pense. Ouais. Mais bon, c'est comme ça que je procède, en fait. Et ensuite, évidemment, c'est dactylographié, remis en forme, etc. Mais c'est une façon aussi de canaliser ses idées et surtout ses phrases, en fait. C'est-à-dire que avant de taper une phrase sur une machine mécanique, il faut être à peu près sûr de son coup. Sans quoi, ça peut devenir un casse-tête insurmontable et surtout mangeur de temps, parce que la moindre correction, c'est par définition impossible.
Donc c'est une manière d'écrire.
C'est une manière d'écrire, ouais.
Est-ce que c'est aussi par nostalgie de ces années 60 que vous n'avez pas connu ? Ce n'est pas votre génération, mais il y a quand même quelque chose d'un peu désuet dans ce que vous nous dites.
Désuet, non, c'est vraiment une question de technique. Je sais pas, c'est peut-être lié à l'enfance aussi, parce que ma mère tapait à la machine, en fait. Donc je dois avoir des sons qui font que... je m'en suis aperçu récemment. C'est vrai que ma mère tapait à la machine et je dois avoir des bruits de machine à écrire dans la tête. Donc il y a peut-être un lien.
On revient au son, décidément.
Peut-être, oui.
Alors pour finir cette émission spéciale, donc à l'occasion du 100e anniversaire de la radio, je me permets pour finir une carte blanche, parce que voilà à quoi m'a fait penser le dénouement de votre fiction.
Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto.
Qu'est-ce que ça vous évoque, Thierry Dancourt?
Nous sommes en Italie, a priori.
Oui.
Voilà.
Je vais citer quand même l'interprète.
Oui,
c'est Ornella Vanoni qui chante L'Appuntamento. Donc l'Italie.
Donc l'Italie, c'est vrai que le roman s'achève en Italie. On ne va pas entrer dans le détail, mais c'est vrai que l'Italie, c'est une espèce de point de fuite pour les deux personnages, parce que finalement, Franck a réussi par un tour de passe-passe à se libérer d'un certain nombre de liens et de changer de vie, on va dire ça pour simplifier. Et c'est vrai qu'à la fin, finalement, sans rien dévoiler, On a une espèce, un univers un petit peu clos, un petit peu fermé, qui est celui de l'espionnage. On a une espèce d'ouverture sur l'espace et aussi sur le temps, finalement, qui fait que la perspective s'ouvre un petit peu et on étouffe peut-être un petit peu moins que dans l'ensemble du roman.
C'est ce que vous permet la littérature, Thierry Dancourt ? De sortir d'une forme d'étouffement et d'aller vers quelque chose de plus ouvert ou de changer de vie ?
De changer de vie. En fait, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, on fait des livres. Mais il se trouve que la combinatoire du livre faisait qu'à un moment, on se retrouve... C'est vraiment une combinatoire, en fait, une espèce de combinatoire qui fait qu'à un moment, on se retrouve en Italie. Voilà.
Mais vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Pourquoi est-ce que vous écrivez ?
Alors, pourquoi est-ce que j'écris ? Je ne sais pas trop, finalement. C'est une habitude. En fait, ce n'est pas un goût particulier chez moi, l'écriture. Je ferais bien autre chose, finalement. Parce que c'est quand même difficile pour différentes raisons. Ça peut être un peu compliqué aussi. Donc chez moi, ça n'a jamais été. J'ai jamais voulu chercher absolument à être écrivain entre guillemets. Hein. C'est pas du tout. Chez moi, il n'y a aucune volonté de cet ordre. Mais il se trouve que je peux pas trop m'en empêcher finalement. On va voir les choses sous cet angle-là, mais. J'ai jamais eu de volonté vraiment très définie d'être écrivain, enfin d'écrire absolument, etc. Ça se présente un petit peu comme ça, quoi.
Mais est-ce qu'il y a aussi cette idée de changer de vie ou pas ?
Non, pas vraiment. Non. Peut-être faire changer de vie au lecteur, oui, mais... On sait tellement comment c'est fait que finalement, il arrive un moment où pour celui qui écrit, c'est peut-être pas artificiel, mais c'est une. On sait tellement comment c'est fait que si on peut faire rêver le lecteur ou changer de vie au lecteur, très bien, c'est un petit peu le but. Mais soi-même, on n'est pas trop berné en fait, finalement. Donc. Et c'est vrai que j'aimerais parfois être dans la position de pouvoir lire mes livres et de voir à quoi ça ressemble, parce que je n'en ai pas vraiment l'idée, en fait.
Mais je vous conseille, c'est très bien.
Bon, moi, j'ai essayé.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission spéciale à l'occasion du 100e anniversaire de la radio et d'avoir joué le jeu des ambiances sonores pour évoquer votre roman, Thierry Dancourt, qui s'intitule, je le rappelle, « Silence radio ». Paru aux éditions de la Table Ronde et qui ici ne fait pas référence au silence des ondes, mais qui est bien une expression pour illustrer une disparition, une absence, un évanouissement, comprendront ceux qui vous liront. Et on se quitte avec ce clin d'œil, ou plus exactement ce clin d'oreille.
Allô Paris ?
Oui.
Est-ce que c'était bon ?
Très bon.
Parfait.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.
Saison Africa 2020.